Chapitre 22. En mettant les pieds dans leur maison réchauffée par le poêle entretenu par Rosario, arrivé un peu plus tôt, Madeleine et Freddy se préparèrent à accueillir leurs visiteurs, le temps du réveillon. Avant que le couple et Jean-Julien n'arrivent chez lui, le pêcheur s'empressa de boire un grand verre de caribou, malgré la désapprobation évidente de sa femme, qui avait repris un peu de couleur. Elle savait que l'épreuve qu'il venait de vivre dans l'église était la dernière de 1934. Madeleine espérait de tout son cœur que la prochaine année en soit une de calme et de douceur. « Tu pourrais peut-être attendre la visite, Freddy? » le sermonna-t-elle en fronçant ses sourcils. « J'ai besoin de courage pour endurer ça. »« De quoi tu parles? Endurer quoi ?» s'informa Rosario, assis près de Palmyre. Le jeune homme fixa l'octogénaire droit dans les yeux et expliqua. « Vous savez bien la présence de cet homme à notre table pour le réveillon de Noël. Tout le monde va savoir qu'il vient ici et il me semble qu'on a déjà assez fait parler de nous autres ce soir. » s'inquiéta Freddy. « Plus j'y pense, plus je me dis qu'on aurait dû faire ça juste nous cinq avec Jean-Julien. » Clémence et son ami auraient pu aller chez Simone et Tom. Rosario hocha la tête pour approuver les paroles du jeune, alors que Madeleine soupirait en projetant sa longue tresse dans son dos. Elle s'approcha de son mari, assis sur la chaise berçante près du poêle. Alors qu'elle s'opposait rarement aux gens, encore moins à son époux, la femme mit sa main sur le bras qu'il levait pour porter son verre à ses lèvres. Dardant son regard noisette dans les yeux un peu fuyants de ce dernier, Madeleine énonça sèchement. « Écoute-moi bien, Freddy Poirier. On va recevoir Clémence et son compagnon avec gentillesse et bienveillance. Tu m'as bien comprise? Exagère pas. Je vais quand même pas me mettre à faire des révérences à ce gars-là. » La jeune femme prononça un juron inhabituel, sous les grands yeux comme des soucoupes de Freddy. « Sainte bénite, tu me feras pas honte. Puis je t'avertis, « j'ai perdu une sœur, j'ai pas l'intention d'en laisser aller une autre. Rentre-toi bien ça dans la tête. Ça fait que son ami, amoureux, appelle-le comme tu veux, on va le recevoir avec respect. C'est certain qu'il est différent, mais on peut bien supporter ça le temps d'une soirée. » Palmyre, qui aurait préféré elle aussi ne pas côtoyer cette personne qu'elle jugeait étrange, décida de ne pas se mêler de la conversation. Elle murmura tout de même à Rosario, « Une chance que mon fils et Carmel voient pas ce que devient leur fille Clémence. Mon Marcelin lui aurait remis les idées bien en place. » Son vieil ami lui jeta un regard entendu. Mais sur le fond, Palmyre était d'accord avec sa petite-fille. Il pouvait bien tolérer ce Sylvestre quelques heures. La famille Gérard vivait suffisamment de friction, ce n'était pas nécessaire d'en rajouter. Au moment où Freddy voulut répliquer d'un ton boudeur, on cogna à la porte et Madeleine leva un index menaçant. « Tiens-toi comme du monde. Fais-moi pas honte, Freddy, » répéta-t-elle, « parce que tu vas avoir affaire à moi. » Contre toute attente, les heures à manger et à se divertir se déroulèrent de belle façon chez le couple. Pendant que Rosario et Palmyre discutaient à voix basse dans le salon, les jeunes et Jean-Julien s'amusèrent à chanter et à danser une fois la table repoussée le long du comptoir. Dès la fin novembre, Madeleine et sa grand-mère avaient cuisiné quelques tourtières et d'autres plats qui avaient été entreposés dans la cabane derrière la maison. Pour le premier Noël d'Arthur, le bébé n'avait guère été éveillé et avait laissé sa mère s'amuser et même boire un peu trop. Après une heure à rester sur ses gardes, Freddy avait finalement décidé que Sylvestre Ballant était un invité fort agréable. « En tout cas, toi, tu sais chanter! » C'était même extasié le pêcheur quand Sylvestre avait entonné « Sainte nuit » d'une voix puissante qui ne faussait presque pas. Un peu après 2 heures du matin, Rosario, qui avait apporté son violon pour la veillée, accompagna Freddy, qui entama la chanson de la Bolduc, « L'ouvrage aux Canadiens ». Un bon Canadien, ça vaut 3 émigrés. Et puis, ça s'adonne qu'ils n'ont pas peur de travailler. Au pic puis à appel, ça les dérange pas. Pour peupler le Canada, je vous dis qu'ils sont un peu là. Madeleine l'accompagna avant de réaliser la portée des paroles. « Oh mon doux, je suis désolée !» s'écria Madeleine en cessant de chanter la main devant la bouche. Elle jeta un regard d'excuse à Sylvestre, qui haussa ses épaules. Sa belle chemise blanche était détachée un peu plus qu'à son arrivée, et son visage brun était en sueur, en raison des danses endiablées pratiquées toute la soirée. « Je suis pas immigrée, Madeleine, » déclara-t-il. « Ça me dérange pas. »« Hein? Certain que tu l'es, voyons, » répliqua Freddy, qui avait enfilé un simple chandail à manches courtes au beau milieu de la nuit. Sylvestre leva les mains pour le faire taire. Devant l'inconfort de Clémence et Madeleine, il expliqua calmement ses pensées, malgré la colère qui grondait au fond de lui. « Je suis né à Québec. » « Et alors ?» Le pauvre Freddy, qui avait consommé un peu trop de caribou et de bagos, s'appuya contre le mur près de la porte pour éviter de trébucher. Ses yeux étaient vitreux et son sourire un peu niais faisait rire Madeleine et les invités. « T'es né où, toi, Freddy ?» s'informa Sylvestre d'un ton sec. « Moi, ici à Lens. » « Et t'es Canadien-Français ?»«
Certain que je suis Canadien-Français. »
Sylvestre plongea son beau regard vert dans celui de Jean-Julien, qui attendait la suite de la discussion. Comme chaque fois qu'il avait croisé ce regard depuis le premier moment de l'arrivée du jeune homme à Lens à la joie, le quinquagénaire sentit un tressaillement au fond de sa poitrine. Il comprit à cet instant la raison de ce malaise et baissa ses paupières pour reprendre ses esprits. Les yeux de Sylvestre lui rappelaient un autre regard, qu'il avait oublié depuis près de 20 ans. Une femme. La seule qui avait fait flancher son cœur. Déterminé à ne pas plonger dans ses souvenirs, Jean-Julien se redressa pour suivre la conversation dans la cuisine. Sylvestre s'approcha de Freddy, qui ouvrait et fermait un œil après l'autre pour essayer de comprendre pourquoi sa vision était aussi trouble. « Alors peux-tu m'expliquer la différence entre toi et moi ?» demanda Sylvestre. « Si nous sommes nés tous les deux dans la province, ça fait de nous des Canadiens français, pas des immigrés, non ?» Ça fait que Madeleine, vous pouvez chanter la pièce de la Bolduc, ça doit faire 100 fois que je l'entends. Je me sens pas visée par les paroles, je te le jure. Mais la femme décida de changer quand même le registre pendant que Freddy essayait de voir clair dans les propos de son invité. Se pouvait-il que Sylvestre Ballin soit de la même trempe que lui, malgré la différence de couleur? La nuit était bien avancée lorsque Jean-Julien décida de s'en retourner chez lui. Même si Clémence avait envie de poursuivre la soirée, elle constata que Madeleine semblait épuisée et que son beau-frère cuvait déjà son vin, affalé dans la berçante au coin du poêle. « Bon, on va faire un bout nous autres aussi », clama la châtaine avec dépit. « Non, non, restez encore », répliqua sa sœur sur un ton qui manquait de conviction. Clémence s'approcha de son aîné pour lui baiser le front. Il y avait longtemps que Rosario avait quitté la Maison Bleue et que Palmyre avait laissé les jeunes festoyer seuls. « Je suis crevée, moi aussi, Maddy. On se voit demain, OK? » Retenant un soupir de soulagement à l'idée de pouvoir regagner son lit sous peu, Madeleine sourit gentiment à sa sœur. Quand le trio de visiteurs sortit dans l'air froid, il était déjà 4 heures du matin, et malgré cela, tout au long de leur marche d'une 30aine de minutes, ils croisèrent d'autres villageois, à pied ou en carriole, qui s'écriaient sur un ton joyeux « Joyeux Noël! Joyeux Noël! » Une fois les fêtes passées, le village de Lens à la joie tomba dans une espèce de dormance. Les jours et les nuits plus glaciales ne donnaient guère le goût de sortir des maisons. Avant, les jumelles et leur mari se voisinaient chaque semaine pendant la saison froide. Un souper chez l'une, une soirée de cartes chez l'autre. Mais la situation avait bien changé avec la mort des lois. Les hommes avaient aussi l'habitude de partir ensemble plusieurs fois pendant l'hiver pour la chasse. Géraldine était restée fidèle à Simone et ne se gênait pas pour aller faire son tour chez elle. Comme son mari Omer était parti au chantier pour tout l'hiver, la femme appréciait les denrées que lui fournissait Simone, bien au fait de la pauvreté dans laquelle la famille de son ami vivait. Pour la plupart des villageois, les mois d'hiver rimaient surtout avec misère. Avec la nouvelle année, la mère endeuillée avait signifié à Géraldine son désir de ne plus parler de l'accident. « Laissons mon fils en paix. » « Quand même, on peut pas nier que ta sœur a été... »« Géraldine, non. Je veux plus parler de ça. » Malgré son envie de médire contre Madeleine, la femme blonde respectait la demande de son amie. Craignant que Simone ne se fâche pour vrai et ne rompe les liens entre elles, la femme se retenait de jeter son fiel lors de ses visites. Toutefois, Géraldine se reprenait quand elle allait au magasin général, où elle ne se gênait pas de ramener la question de la noyade des lois à l'avant-plan. Elle évitait le sujet, évidemment, lorsqu'un membre de la famille des jumelles se trouvait sur les lieux. Surtout Jean-Julien, qui l'intimidait lorsqu'il était sur place. L'homme n'avait qu'à hausser un sourcil pour que Géraldine arrête de parler. « Je vais y aller », marmonnait alors la femme en s'enfuyant presque du magasin. Le samedi, Jean-Julien se rendait à tour de rôle manger chez les deux sœurs. Après le départ de Clémence et Sylvestre, le photographe avait laissé les souvenirs refluer à sa mémoire. Les images de cette relation éphémère qu'il avait entretenue avec une femme mariée lors d'un court voyage à Québec en 1915 l'avaient rendu nostalgique. « Marguerite », avait-il soufflé. « Marguerite Deslongchamps. J'avais oublié. » Les yeux sur le fleuve endormi, Jean-Julien avait songé à ce que sa vie aurait été si cette femme n'avait pas été déjà engagée. Mais il avait refusé de s'apitoyer sur son sort et avait même finalement accepté une proposition inattendue de Freddy. Ce dernier, qui avait auparavant l'habitude d'aller à la chasse avec Tom, avait en effet jeté son dévolu sur l'oncle de sa femme. « Allez, Jean-Julien !» avait supplié Freddy. « Rosario devait m'accompagner, mais il est trop enrhumé, puis Thibault nous attend à son camp. On va avoir bien du plaisir, je te le garantis. J'aime pas tellement ça, la marche en raquette, tu le sais bien, Freddy, » avait d'abord répondu Jean-Julien. « Encore moins dormir dans une cabane à geler toute la nuit. » Mais le jeune homme n'avait pas lâché le morceau. Il avait parlé des bienfaits de la nature, des bons pâtés aux lièvres que Madeleine leur concocterait. Il avait usé de tout son charme pour faire un peu pitié, et c'est ainsi qu'en ce matin de février à l'aube, Jean-Julien se retrouva devant sa nièce sous un ciel promettant une bonne bordée. L'homme à la moustache grise avait la mine basse, et Freddy fit semblant de ne pas le remarquer. Il mentionna plutôt l'étalage de tout leur bagage. Couverture, nourriture, couteau, carabine, je pense qu'on a pas mal tout. Les chiens attendent plus que nous. » Pas peu fier, Freddy avait travaillé tout l'automne afin de se fabriquer un traîneau auquel atteler ses deux bêtes noires et blanches nouvellement acquises. Auparavant, il dépendait sur cet aspect-là également de son beau-frère Tom. Sachant que les deux hommes n'iraient plus chasser ensemble avant longtemps, il s'était mis au travail avec ardeur dès la saison de la pêche terminée. Après le traîneau pour Arthur, le jeune père avait décidé d'en créer un second pour aller en forêt. S'il avait osé, Freddy aurait fait part de ses pensées secrètes à sa femme. « La mort des lois aura eu comme conséquence heureuse que je m'émancipe de mon beau-frère », songeait-il parfois. Évidemment, il se voyait mal partager cette constatation avec Madeleine. Se dirigeant vers l'enclos attenant à sa cabane, il sortit les chiens Ruby et Voyou, qui se mirent à sauter autour de lui avec bonheur. « Oui, oui, on s'en va en forêt. C'est un crème qu'on va être bien. J'espère juste que Jean-Julien s'est tiré de la carabine », marmonna l'homme en attelant les bêtes énervées à son traîneau. Quand il arriva devant la maison avec l'attelage, c'est avec une grande fierté que l'homme invita Jean-Julien à s'installer à ses côtés. « As-tu vu ça comme il est beau, mon traîneau ?» fanfaronna-t-il. « Oui, t'as bien travaillé. » « Mais je te dis qu'il fait froid, antipère. J'ai peur qu'on meure gelé, je te mens pas. » Le ton débiné de Jean-Julien n'échappa pas à Freddy, mais il l'ignora, tout à son excitation. Il saluait sa femme et Palmyre à la fenêtre du salon lorsqu'un cri les héla, juste au moment où il allait donner l'ordre au chien de s'élancer dans le chemin. « Freddy !» Avec surprise, les deux hommes virent Lucienne arriver en trombe sur ses jambes courtes, la tuque de travers et à bout de souffle. « Mon doux, Lucienne, veux-tu bien me dire ce que tu fais ici à cette heure-là? » demanda Freddy en retenant un fou rire. « Je... Ouf! Attends! » La pauvre Lucienne mit ses mains sur ses grosses cuisses en cherchant son air. Ses cheveux roux sortaient sur le devant de sa tuque mal placée et elle essuya sans délicatesse son nez qui dégoûtait. « Bon, j'ai fait un ragoût pour Thibault puis un gâteau aux bananes. Tu veux bien lui apporter tout ça? » « Certain. » Conciliant, Freddy descendit de son traîneau pour ouvrir une grosse sacoche de cuir brun. Il y glissa la nourriture donnée par la femme qui les saluait déjà pour retourner chez elle en grelottant. Elle cria sans se retourner. « Soyez prudent, surtout que c'est la première fois que tu y vas sans Tom. » Freddy maugréa tout bas qu'il n'avait pas besoin d'une gardienne. Dans le petit matin de février, les deux hommes s'éloignèrent pour aller emprunter le sentier derrière l'église et s'enfoncer dans la forêt enneigée. Heureux comme pas un, le plus jeune lâcha un « youpilaï » qui fit sourire son compagnon, malgré son déplaisir. Après tout, il pouvait bien se permettre de sortir de sa zone de confort pour quelques jours, décida Jean-Julien en appréciant les grands conifères croulant sous la neige épaisse. Il leva la tête vers le ciel en inspirant à plein poumon.
Simone habilla sa plus jeune fille en pressant Philomène. « Dépêche, Philo, faut que je descende au village, attends juste que tu partes pour l'école. »«
Mais j'ai mal à la gorge, maman !»
se plaignit la blondinette, dont les joues rouges n'auguraient rien de bon. La mère délaissa Béatrice un moment, et celle-ci en profita pour sauter sur le divan à moitié vêtue. Simone s'avança vers son aînée qui tenait sa tête, assise devant son bol de gruau, encore aux trois quarts rempli. Elle lui posa la main sur le front en grommelant. « Dis-moi pas que t'as pogné la grippe.
Je veux pas aller à l'école. J'ai pas le goût. »
Simone fronça les sourcils. Ce n'était pas le genre de sa fille de vouloir éviter de rejoindre ses camarades. Même quand il neigeait à plein ciel, Philomène était la première à s'élancer sur le chemin vers l'école de Lance à la Joie, qui s'élevait derrière le rang Cassot, où habitait la sage-femme. Embêtée, la brunette hésita en voyant bien que son aînée ne se sentait pas bien. Comme pour en rajouter, Philomène se leva et voulut s'éloigner vers sa chambre. Mais après quelques pas, elle s'arrêta, et avant que sa mère ne puisse réagir, elle régurgita son déjeuner sur le sol.
« Maman !»
pleurnicha Philomène en recommençant à vomir. « Oh, maudine !»« Horace !» cria Simone. « Horace !» Les pas de son beau-père se firent entendre derrière la porte de sa chambre au bout du couloir, et il apparut sur le seuil de la pièce, le visage ensommeillé.
« Quoi? Qu'est-ce que t'as crié de même, Simone ?»
La femme tenait les cheveux de sa gamine pour dégager son visage en pleurs. Devant elle, sur le sol, les résultats des haut-le-cœur de l'enfant répondirent au grand-père, qui grimaça avant de s'élancer vers le duo.
« Ma pauvre Philo, t'as dû manger quelque chose de pas bon ?»«
Béatrice, tasse-toi de là !» grogna Simone à sa cadette qui tournait autour de la flaque liquide. Sans l'écouter, la bambine s'accroupit sur ses petites jambes et heureusement qu'Horace fut assez vif, car elle étirait le doigt pour toucher à cette étrange mixture. « Oup là, ma Béa! Viens avec grand-papa! »«
Maman !»
geignit de nouveau Philomène qui se sentait encore nauséeuse. Simone se mit aussitôt en mode action. Elle souleva Philomène sans tenir compte de sa jaquette souillée et lui chuchota à l'oreille. « Tout ira bien, ma Philo. On va aller te recoucher. »«
Mais l'écho... Oh !»
Sans pouvoir terminer sa phrase, l'enfant éclaboussa de nouveau le sol avec ce qui n'était plus que de la bile. Affaiblie, elle se laissa transporter par sa mère dans la chambre qu'elle partageait avec Béatrice. Son beau-père prit soin d'éloigner la plus jeune en lui permettant de jouer avec deux casseroles et une cuillère, le temps de nettoyer le dégât dans le corridor. L'odeur âcre lui soulevait le cœur, mais comme son fils Tom était lui aussi parti à la chasse avec un cousin, Horace considérait que c'était son rôle de prendre soin de sa famille. Pendant toute la journée et une partie de la soirée, Philomène régurgita sans arrêt, malgré son estomac vide. Pâle comme la mort, la petite fille était vêtue de la plus épaisse de ses jaquettes afin qu'elle puisse se réchauffer, car elle grelottait. Sa fièvre commença d'ailleurs une heure après le souper.
« Je pense que je vais aller chercher l'infirmière, » marmonna Simone avec inquiétude. « Misère, ton père qui vient de partir pour 3 jours en plus. »
La femme se mordillait les lèvres en ne quittant presque jamais Philomène des yeux. Ses boucles blondes étaient mouillées de sueur, et la fillette avait de la difficulté à déglutir tant sa gorge et sa trachée lui faisaient mal. Elle avait beaucoup pleuré, mais ses larmes aussi s'étaient taries. Elle était tellement épuisée que ses forces avaient décliné au même rythme que ses vomissements. Simone avait la poitrine serrée. Elle qui n'avait jamais été le genre de mère à s'épouvanter à la moindre maladie de ses enfants. Mais la mort des lois avait changé sa vision. Devant le malaise qui affligeait sa plus vieille, elle en perdait tous ses moyens. Tout comme Freddy, son mari avait quitté la maison pour la chasse d'hiver. Son beau-père, qui n'aimait plus passer ses journées accroupi à vérifier des pièges, avait choisi de ne pas s'adonner à cette activité cette année. Horace prenait donc soin de Béatrice. Et il avait même fait revenir des œufs dans la poêle pour le souper. Il força Simone à s'asseoir quelques minutes pour grignoter un peu.
« Ça ressemble à une grosse indigestion. Mets-toi pas tout à l'envers comme ça. »
lui dit-il en serrant son épaule rebondie.
« Mais tout d'un coup que... »
Simone n'arriva pas à formuler sa crainte. Tout d'un coup que Philomène partait vite elle aussi. Juste à cette pensée, les aisselles et le cou de la femme se couvrirent de sueur. Elle repoussa l'assiette à peine entamée et se leva pour rejoindre sa fille. Avant de pénétrer dans la chambre, elle se tourna vers Horace pour annoncer « Si jamais sa température continue à monter, on va la plonger dans la bassine. » « OK. » Un peu avant 22 heures, comme la fièvre ne semblait pas s'estomper, Horace remplit la grosse cuve en métal avec de l'eau froide. Simone souleva sa petite et la transporta en lui chuchotant des paroles affectueuses. La gamine n'avait plus vomi au moins depuis quelques heures. « C'est certain, elle n'a plus rien dans le ventre », avait grogné sa mère quand Horace en avait fait la remarque. Un peu désemparé devant l'inquiétude de sa bru, Horace se mit à craindre lui aussi pour la santé de Philomène, en voyant l'inertie qu'elle présentait. Il arrêta Simone lorsque celle-ci déposa sa fille sur le sofa pour la dévêtir. « Finalement, je vais aller voir si l'infirmière peut venir l'ausculter », dit-il en tentant de ne pas montrer ses appréhensions. « Oh, bonne Sainte-Anne, vous pensez que c'est grave, hein? » Les yeux noisettes de Simone se remplirent de larmes. Elle empoigna le bras de son beau-père et le serra convulsivement. L'homme chauve secoua sa tête et répondit sur un ton qu'il souhaitait rassurant « Pas du tout, Simone. Je pense juste qu'on a besoin que quelqu'un confirme que c'est bien une indigestion. » « Mais on la connaît pas, cette femme-là. Géraldine pourrait peut-être faire l'affaire. Elle est habituée avec ses 5 petits. Moi, on dirait que je me fais pas confiance quand ça touche mes enfants. Je perds tous mes moyens. » Le visage crispé par l'inquiétude, Simone essuya ses yeux en se disant que ce n'était pas le moment de perdre le contrôle. Elle essaya de mettre de côté la vision du corps des lois, mou et sans vie, pour se convaincre que sa fille avait seulement mangé un aliment périmé ou attrapé un microbe en suçant de la neige. Horace avait déjà enfilé sa lourde parka et mis son casque de poils sur sa tête. Il ouvrit la porte en pointant Philomène. « Je me dépêche de revenir avec l'infirmière. En attendant, commence à la déshabiller. Même si elle chiale qu'elle est froid, il faut faire baisser sa température. »